Bonjour, c'est Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. C'est devenu un rituel mensuel, l'entretien avec le député de la circonscription de Peltre, où se situe notre radio, Ludovic Mendès. On parlera bien sûr de son actualité parlementaire du mois dernier, que ce soit son travail sur la fin de vie ou sur l'islamophobie, mais aussi la pérennisation de la centrale de Saint-Avold, la politique intérieure avec les propositions de Laurent Wauquiez sur les personnes sous OQTF, les relations de la France avec l'Algérie, les gesticulations douanières de Trump et les incidences pour l'Europe, le travail du gouvernement Bayrou sur le prochain budget et le refus des maires d'y participer, en passant par la bronca du président du département de la Moselle, Patrick Weiten, vis-à-vis de l'État, ou encore le départ de Laurent Touvet, le préfet de la Moselle, pour le Pas-de-Calais. Sans plus attendre, écoutons Ludovic Mendès.
Monsieur le député, nous sommes vus il y a un peu moins de 6 semaines. Question rituelle, en ces 6 semaines, quel a été votre travail en tant que parlementaire, aussi bien sur les bancs de l'Assemblée ou en commission, que sur le plan local ?
Comme d'habitude, j'allais dire, les six dernières semaines ont été très chargées. On se montre qu'il y a eu pas mal de textes à l'Assemblée nationale. La commission des lois est pas mal occupée ces derniers temps. Et à titre personnel, j'ai été très occupé par un projet de loi qui me tenait à cœur, qui était celui de sauver la centrale Émile Huchet à Saint-Avold et de conserver les emplois pour permettre une conversion de cette centrale au charbon, en gaz et biogaz. Donc ça nous a pris énormément de temps.
Et On
a eu la visite du ministre d'ailleurs ce lundi pour confirmer justement l'engagement du gouvernement. C'était un des engagements que j'avais pris aussi après le vote de ce texte, et de le faire venir et de démontrer qu'il y avait un soutien du gouvernement plein et entier envers les salariés de Gazelle Énergie. Donc c'était une bonne chose pour nous, parce que je crois qu'il a été accueilli d'ailleurs sous les applaudissements et que les salariés ont apprécié son discours, qui a démontré que oui, on a pris en considération cette histoire particulière de la Moselle, cette histoire particulière de ce site, Émile Huchet, et de la fierté de ses salariés de continuer à faire vivre un site pilotable d'énergie, pilotable à la demande, pilotable quand on en a besoin, mais surtout dans la durée, et de démontrer que quand on se bat collectivement, tous ensemble, de façon transpartisane, et qu'on choisit d'avancer main dans la main, on peut y arriver, même si certains s'amusent encore à expliquer que c'est grâce à eux alors qu'ils n'ont rien fait. Comme on dit souvent, certains parlent beaucoup d'énergie et de protéger des centrales, mais ce sont surtout des éoliennes politiques. Donc on va les laisser brasser du vent et on va avancer de notre côté. Je me permets ce petit tac parce que je pense qu'au bout d'un moment, c'est parfois compliqué de se dire que des personnes vont sur le terrain expliquer qu'ils sont là pour sauver des emplois, sauver des sites, sauver des territoires, alors qu'in fine, dans le fond, ils ne font rien du tout. Donc c'était important de le rappeler et je crois que ça a été démontré à la centrale Émile Huchet, où d'ailleurs ses représentants n'étaient même pas là. Et quand je parle de ces représentants-là, je parle de ceux du Rassemblement National et de personne d'autre, parce que tous les autres étaient mobilisés ou se sont excusés. Donc l'arrêté est bien autre par rapport aux discours tenus et aux engagements que nous avons pris. Et le seul engagement que j'avais pris devant les salariés il y a plus d'un an et demi maintenant, c'était de dire que je ferai tout ce qui est en mon possible pour sauver ce site, sauver ses emplois et trouver une pérennité. Et je pense que là, je ne peux pas faire mieux en l'état. Maintenant, c'est à Gazelle Énergie de faire le travail. Au-delà de ça, on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle la fin de vie. Il y a eu d'autres thématiques en lien aussi avec les gens du voyage et la fameuse niche de travail du groupe Horizon à l'Assemblée nationale. En complément, il y a eu tellement de sujets que ça devient compliqué et de mon côté, j'étais aussi rapporteur en hémicycle d'un débat public sur ce qu'on a appelé l'islamophobie et les actes anti-musulmans.
Voilà. Ce qui fait déjà pas mal.
Ce qui fait déjà beaucoup de travail.
Je reviens sur la centrale de Saint-Avold pour la pérenniser peut-être aussi. On peut avancer sur les notions d'émissions de gaz à effet de serre liées à la centrale. Il y a des progrès qui peuvent être faits et qui sont déjà faits d'ailleurs.
Bon, c'est des progrès importants. Je rappelle qu'une centrale à charbon, c'est très polluant. C'est émetteur d'énormément de CO2. Là, on va passer sur une centrale qui va envoyer moins de 550 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc ça veut dire que c'est vraiment réduit. On réduit de moitié en passant juste au gaz naturel qui reste une énergie fossile. Mais la réalité, c'est que c'est quand même moins polluant que le charbon, et en y intégrant du biogaz jusqu'à 50 ou 60%, on diminue de 70% les émissions de CO2. Et on est sur un site qui va pas tourner tous les jours. On est sur une centrale d'appoint, un site pilotable qui est utilisé quand on a besoin parce qu'on a une surdemande d'électricité, parce qu'on a des besoins particuliers liés à un problème, je sais pas, par exemple la centrale de Cattenom, une grosse demande en énergie du monde industriel, la période d'hiver qui est parfois très froide où on a besoin de tous se chauffer. En fait, ce site va être lancé quand on aura besoin d'énergie. Donc on parle d'environ 300 heures par an, au minimum 100 heures. Donc c'est très faible aujourd'hui en termes d'utilisation, ça sera très faible en termes de consommation d'énergie polluante. Mais l'avantage, c'est qu'on maintient des emplois, on apporte une solution pérenne sur un site qui est aujourd'hui été vu comme un site qui allait être abandonné, oublié et revitalisé. Là, on maintient et la centrale et on revitalise le site. Donc je pense qu'on ne peut pas trouver mieux comme solution que cette transformation que nous proposons.
Pour les auditeurs qui connaîtraient mal le sujet, comment on peut pérenniser, maintenir l'emploi en n'utilisant que 300 heures par an?
Alors en fait, c'est un mécanisme de capacité qui se met en place au niveau français, donc ça a été lancé au niveau de la Commission européenne, il y a des mécanismes de capacité. Un mécanisme de capacité, ça veut dire qu'on prévoit une consommation d'énergie à l'année et qu'on se dit, ben voilà, avec tous les systèmes que nous avons, centrales nucléaires, centrales au fuel, centrales au gaz, éoliennes, panneaux photovoltaïques ou solaires, on est en capacité de fabriquer tant de kilowattheures d'électricité. Et parfois, on a un pic de consommation, on est en plus en train de réindustrialiser notre pays, on a une forte demande aussi en termes de défense. Donc on doit définir la consommation d'électricité. Et en complément, on passe de plus en plus à l'hybride et à l'électrique. Donc il y a aussi une surconsommation d'électricité qui n'était pas prévue il y a 10 ou 15 ans par rapport à nos déplacements, à la mobilité. Donc le marché de capacité permet de définir des sites qui sont pilotables, au-delà de la centrale nucléaire qui n'est pas pilotable comme on le souhaite. On n'arrête pas une centrale et on la redémarre du jour au lendemain. Par contre, un site comme la centrale Émile Huchet de Saint-Avold permet d'être démarré dans la journée selon le besoin d'électricité. En complément, on y ajoute aussi les batteries qui, elles, vont stocker l'électricité et qui nous permettent d'avancer. Donc le marché de capacité, c'est un marché sous forme d'appel d'offres lancé par RTE, qui est le réseau de transport d'électricité national, et qui est défini pour les 10-15 prochaines années le besoin de consommation d'électricité et d'énergie dans notre pays. Et on va passer des accords avec EDF, Total, Gaz et l'énergie et d'autres structures pour définir les besoins en énergie. Et en contrepartie, il y a une forme de subvention qui est versée. C'est pas une vraie subvention, c'est un appel d'offres, donc c'est un financement qui est apporté par l'État et la Commission européenne pour garantir que les sites soient toujours en fonction. Donc ça permet de garantir les salaires, ça permet de garantir l'emploi et ça permet aussi d'avoir une visibilité à long terme sur un site qui devait fermer, je le rappelle, en 2027. Là, on part pour 10 ou 15 ans complémentaires et qui leur permet de retravailler l'ensemble du site parce qu'on n'aura plus de charbon, donc on va pouvoir dépolluer le secteur, on pourra y installer des industries. On a un besoin aussi, par exemple, en data center qui peuvent s'installer directement sur la zone. Et ce marché de capacité permettra donc à l'actionnaire principal, de se dire « je ne vais pas investir 100 millions d'euros pour rien, je vais les investir parce que j'ai une garantie de pouvoir faire tourner ma centrale et d'avoir une forme de rentabilité. » Comme toute entreprise, il y a besoin d'une rentabilité, même chez EDF, il y a besoin de rentabilité. Donc on est sur ce système-là et on leur permet aussi d'intégrer le marché de capacité allemand, étant donné qu'ils sont connectés au réseau allemand, ce qui leur permet d'avoir une visibilité encore plus importante sur les besoins de faire tourner la centrale dans le temps. Et ce marché de capacité-là qui rentre en œuvre en 2026, donc on est en plein dans le lancement du cahier des charges et des appels d'offres, permettra vraiment à toutes les structures de France qui produisent de l'énergie de pouvoir intégrer ce marché et donc d'avoir une visibilité à long terme sur les investissements qu'ils ont besoin de faire.
Passons sur le deuxième sujet, donc, la fin de vie.
Débat compliqué avec, je vous l'ai déjà dit, c'est un débat compliqué parce que c'est un débat qui est très personnel. Moi, à titre personnel, je pense qu'on doit définir un cadre sur l'accompagnement en fin de vie, sur les soins palliatifs aussi, parce qu'il y a des besoins particuliers en soins palliatifs. Alors, c'est moins le cas dans le département de la Moselle. On a de la chance d'avoir des structures compétentes et en nombre pour apporter des réponses selon les besoins des personnes qui sont aujourd'hui en difficulté et qui sont en fin de vie. Il y a des besoins aussi de développer les soins palliatifs à domicile. C'est un manque au niveau national et même au niveau du département de la Moselle. Et c'est la responsabilité de personne, c'est un manque d'engagement depuis des années sur ce sujet-là. Et après, c'est sur la fin de vie, sur le choix de décider si on veut avoir des soins qui soient des soins classiques en soins palliatifs, si on veut arrêter avant, si on veut le faire à la maison, si on veut le faire à l'hôpital, si on veut le faire en centre spécialisé. Donc c'est un débat qui est très particulier parce que c'est un débat qui est très personnel. Moi, j'ai mon avis personnel pour différentes raisons, mais je pense que la loi doit définir un cadre qui permet à chacun de choisir. Et je pense qu'on doit pouvoir choisir dans notre pays la manière dont on veut partir, la manière dont on veut basculer après une maladie importante, handicapante, dont on sait qu'elle est incurable. Alors, on ne parle pas de suicide assisté, on parle bien d'accompagnement en fin de vie, de personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui faire marche arrière par rapport à l'état de santé dans lequel ils sont. On ne parle pas non plus de personnes qui se sentent mal psychologiquement et qui ont besoin d'en finir avec la vie. On n'est pas sur ces sujets-là. On est sur le sujet vraiment de la fin de vie, de l'accompagnement de maladies incurables. On peut parler de maladies de Charcot, on peut parler de certaines personnes qui ont un Parkinson aggravé et qui sont en fin de vie, de personnes qui ont malheureusement un cancer en phase terminale. Voilà. C'est juste un choix qui est proposé et chacun fera comme il le souhaite. Et bien entendu, tout ça, ce sont des choix qui sont faits de façon éclairée avec un collège médical qui prendra la décision pour savoir si la personne fait le bon choix ou pas. Et on n'est pas dans ce qu'on peut entendre parfois, la volonté de fermer des EHPAD et de tuer nos petits vieux, parce que malheureusement, c'est ce qu'on a pu lire et c'est les mails qu'on a pu recevoir de notre côté. On est loin de tout ça. On veut un bon accompagnement des personnes vieillissantes dans notre pays, des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de maladie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe la sécurité sociale.
Mais ça ne concerne pas que les seniors.
Non, ça concerne tout le monde. Ça concerne malheureusement parfois des personnes plus jeunes. On peut avoir 20 ans et se retrouver en fin de vie. On peut avoir 12 ans et se retrouver en fin de vie. Alors un enfant ne fera pas de choix éclairé. Donc les mineurs ne sont pas intégrés dans le processus, mais toute personne majeure qui a sa pleine capacité de réflexion et sa pleine capacité de pouvoir faire un choix doit demain pouvoir faire le choix de dire je vais jusqu'au bout, je veux des soins en soins palliatifs jusqu'à la dernière minute ou pas. Et on a déjà la démarche anticipée qui est prévue, que nous ne faisons pas tous d'ailleurs, donc on peut mettre en avant l'ensemble de ces choix-là. Et ça permet d'avoir un débat de société aussi sur ce qu'est la mort et ce qu'est la fin de vie dans notre pays et la manière dont on accompagne les personnes par un accompagnement psychologique, par un accompagnement parfois aussi physique, parce qu'on a besoin d'être accompagné, d'être soutenu, d'être transporté, d'être valorisé, et c'est pas toujours le cas. Donc c'est un débat qui est beaucoup plus large que ça, qui n'a pas de croyance, malgré ce qu'on peut croire. Ce n'est pas un débat en lien avec la religion, ce n'est pas un débat détaché non plus de la religiosité, et ça il faut le prendre en considération.
Et on a des échéances sur le débat parlementaire ?
On est en plein dedans, donc si tout se passe bien, on devrait arriver au mois de mai en hémicycle, voire au début juin.
Et donc le troisième sujet ? L'islamophobie ?
Qui est un sujet compliqué, parce que l'islamophobie n'existe pas dans notre pays. On a le droit de critiquer l'islam, comme toutes les autres religions d'ailleurs, quelle qu'elle soit, il y a un droit au blasphème dans notre pays. Le problème, c'est qu'on a pu démontrer dans ce rapport, qui a été fait avec mes collègues Marietta Caramanli et Sabrina Sebaï, qu'en fait, il y a une transformation de ce qu'on appelait le racisme anti-arabe ou anti-maghrébin envers un racisme anti-musulman. Donc des personnes qui aujourd'hui ne sont pas du tout... de confession musulmane, sont parfois considérés comme des musulmans alors qu'ils ne le sont pas, et se voient attaqués par des propos racistes, des propos discriminants, tout simplement par rapport à leur couleur de peau. Donc ça démontre bien qu'en fait, il y a un déplacement d'un racisme que nous avons connu pendant des années, que nous connaissons encore dans notre pays, anti-arabe, anti-maghrébin, vers un racisme anti-musulman. Et comment on a pu le démontrer ? Parce que toutes les recherches démontrent que quand on est musulman issu d'origine asiatique, et ils sont nombreux, malgré ce qu'on peut croire, eh ben, on n'est pas touché de la même façon que quand on est issu des pays issus du Golfe, donc les pays dits arabes, ou du Maghreb, voire de l'Afrique subsaharienne. Alors un peu moins pour l'Afrique subsaharienne, mais beaucoup plus pour les personnes issues du Maghreb ou du Moyen-Orient, dits des pays arabes. Donc on a pu expliquer tout ça, on a démontré qu'aujourd'hui il y avait un besoin d'accompagner sur la lutte contre les discriminations à ce niveau-là, qu'il fallait renforcer au niveau des agents de police et de gendarmerie la formation, l'accompagnement, parce que malheureusement trop peu de personnes portent plainte, trop peu de dossiers arrivent sur le bureau du juge, et ce qui fait qu'on n'a pas de reconnaissance du côté victime. Et les enquêtes de victimologie démontrent ça, c'est-à-dire que beaucoup de personnes disent « j'ai été victime de racisme une fois, deux fois, voire plusieurs fois dans l'année, mais je n'ai jamais déposé plainte parce qu'on ne me croit pas, on ne m'écoute pas, ou on me dit « on ne peut rien faire ». Donc notre objectif à nous, c'est de faire respecter la loi qui lutte contre le racisme, qui lutte contre l'homophobie, qui lutte contre l'antisémitisme, contre toute forme de discrimination, et ne pas détacher l'islamophobie non plus. Je pense que le débat porté aujourd'hui par LFI, qui est de dire qu'il faut créer une caractérisation spécifique, n'est pas nécessaire. On doit se donner des moyens de lutter contre toute forme de discrimination et peut-être repenser le système juridique aujourd'hui par rapport à cet accompagnement-là. Parce que malheureusement, il n'y a pas assez de judiciarisation de ces agressions, qu'elles soient d'ailleurs physiques ou verbales. Et parfois, on a des personnes qui se retrouvent dans des situations où elles ne sortent plus de chez elles. Et parfois, la classe politique, parfois les médias en profitent énormément. On a pu démontrer, par exemple, que sur CNews, sur 365 jours de l'année, il y a eu 330 bandeaux avec marqué « islam » ou « musulman ». Et ça pose des questions sur la manière dont on traite le sujet dans notre pays. On a eu la chance que BFM, du moins le groupe BFM-RMC, le groupe France Télévisions, TF1, LCI, accepté de nous répondre, d'échanger avec nous sur la manière dont ils traitaient le sujet. Mais la réalité, c'est que l'islam, on peut aussi en parler avec de la lumière, avec du plaisir, et pas simplement sur un angle sécuritaire, terroriste. Et quand on voit que, par exemple, des présidents de partis ou de groupes politiques à l'Assemblée nationale critiquent le fait qu'on fasse ramadan ou qu'on mette de côté des femmes dites voilées parce qu'elles sont dans une université ou accompagnatrices scolaires, ça pose des questions, parce que la loi de 1905, est-ce qu'elle est ? Et la loi de 1905, c'est la loi sur la laïcité qui protège les croyants et les non-croyants. Et à partir du moment où on respecte la loi de 1905, le débat politique doit être un débat en lien avec le juridique et non pas un débat philosophique. Dans ce cas, si on parle de philosophie politique. Il y a beaucoup d'autres sujets à mettre sur la table aujourd'hui. Et la lutte contre l'antisémitisme que nous avons dans notre pays, qui est de qualité, doit être la même pour l'ensemble des représentants religieux, qu'ils soient catholiques, protestants, bouddhistes, musulmans ou autres. Et on a la sensation parfois, pour certains d'entre eux, que ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas la faute de l'État, ce n'est pas la faute non plus des organisations religieuses, mais il y a une organisation spécifique qui s'est mise en place dans la communauté israélite de France, ce qui est normal au vu des attaques terroristes, des agressions qu'ils ont pu subir. Je rappelle quand même que c'est la représentation religieuse la moins importante dans notre pays, mais c'est la représentation religieuse la plus agressée en nombre d'agressions et en nombre de propos violents et discriminants sur les réseaux sociaux et parfois aussi dans la rue. Donc on doit apporter des réponses spécifiques, comme on le fait aujourd'hui avec la lutte contre l'antisémitisme, sur l'ensemble des sujets, comme je ne peux pas tolérer qu'encore dans notre pays, chaque semaine, des personnes se fassent agresser parce qu'elles sont homosexuelles, elles sont transgenres, transsexuelles ou autres. Et ça, c'est un vrai sujet de fond que nous devons aborder encore en 2025.
Je glisse très facilement sur le sujet de l'Algérie, les rapports qui nous lient actuellement avec l'Algérie, un peu compliqué. Quel est votre regard là-dessus? Et ne pensez-vous pas que le droit de réserve de certains ministres devrait s'exercer?
Alors, nos relations avec l'Algérie sont compliquées depuis quelques années. Non pas seulement parce que... Alors, certains essaient de faire croire que c'est la faute du président Macron, ce qui n'est pas vrai. Il y a une tension qui est bien plus lointaine que ces 2, 3, 4 dernières années. Je crois qu'on méconnaît malheureusement trop notre histoire pour nous rendre compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Que nous avons une histoire particulière avec l'Algérie, parce que déjà sous le général de Gaulle, c'était ainsi, il y a une histoire qui est à part. Ça a été un département français, ce qui n'a pas été le cas de la Tunisie et du Maroc. Je pense que ça a été démontré par des chercheurs, par des sociologues, par des philosophes, que nous ne sommes pas toujours très bien comportés non plus. D'ailleurs, le rapport de Benjamin Scordia, si je dis pas de bêtises, avait démontré que la France était très mal comportée en Algérie pendant la colonisation, alors même si ça remonte à il y a très longtemps.
Il y a un épisode médiatique qui l'a remis en avant.
Et même si ça remonte à il y a très longtemps, il ne faut pas oublier que ça marque des générations et que ça se transmet de génération en génération. Mais au-delà de ça, ces derniers temps, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui a été gesticulé et hurlé sur les plateaux télé qu'il fallait rompre tout dialogue avec l'Algérie, sauf qu'il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas ministre des Affaires étrangères, et que la diplomatie, qu'elle soit avec l'Algérie ou avec tous les autres pays du monde, ça prend parfois du temps, et la diplomatie c'est de l'échange, ce n'est pas de la menace. D'ailleurs, là où l'Algérie a renvoyé le ministre de l'Intérieur dans ses 22, pour utiliser une métaphore rugbystique, c'est qu'il n'a pas respecté les accords qui avaient été signés. C'est-à-dire que sur les accords, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui fait les demandes, ce sont les préfets qui font les demandes. Et donc à partir du moment où on ne respecte pas la procédure et le protocole, faut pas être étonné qu'on puisse nous renvoyer ces personnes. Et je rappelle que même le tribunal administratif de Paris a dit au ministre de l'Intérieur qu'il s'était trompé. Donc il faut qu'on fasse attention par rapport à ça. Mais je rappelle juste une chose, le président Tebboune et le président Macron ont échangé ensemble et ont trouvé des accords d'avancée. Malheureusement, ces derniers jours, il y a eu quelques tensions dues à des arrestations de personnes qui ont participé à des séquestrations, des agressions envers des influenceurs, envers des personnes d'origine algérienne ou franco-algérienne. On a un débat avec un écrivain français, franco-algérien, qui est Boualem Sansal, qui est le dommage collatéral de ces problématiques diplomatiques entre la France et l'Algérie, dont on demande la libération, et nous sommes nombreux à la demander, parce qu'il y a été... on a même écrit une résolution à l'Assemblée nationale qui sera portée par ma collègue Constance Le Grip incessamment sous peu, pour démontrer que l'ensemble de l'Assemblée nationale, presque, l'ensemble de l'Assemblée nationale soutient la libération de Boualem Sansal, qui n'aurait jamais dû être enfermé parce qu'il a simplement critiqué l'Algérie et parce qu'il est franco-algérien, et qu'aujourd'hui les relations diplomatiques, même si elles sont négatives, on ne doit pas mettre des personnes en prison pour ça. Et les personnes qui aujourd'hui en France d'origine algérienne ou franco-algérienne qui se retrouvent devant un juge, si elles le sont, c'est parce que malheureusement elles ont commis des méfaits, parfois des méfaits très graves, et que on ne cherche pas à condamner la personne parce qu'elle est franco-algérienne ou d'origine algérienne, mais parce qu'elle n'a pas respecté la loi. Et c'est la seule chose que nous demandons. Et ce qui n'est pas la même chose par rapport à Boualem Sansal, où on lui reproche d'avoir critiqué son pays ou autre. Donc l'avantage de la France, c'est qu'on est une démocratie, un état de droit, et qu'on a le droit de critiquer notre pays tant qu'on ne menace pas de l'attaquer et de poser des bombes. Et ce qui, je crois, n'a pas été le cas de Boualem Sansal. Donc on est dans cette logique-là aujourd'hui de dire au ministre de l'Intérieur, taisez-vous, ce n'est pas votre rôle. Laissez parler Jean-Noël Barrot, qui est ministre des Affaires étrangères, et le traité franco-algérien ne peut être mis en question que par une seule personne, le président de la République, à rien que le président de la République, et à partir de là, le ministre de l'Intérieur doit faire son travail aujourd'hui de sécuriser notre pays, apporter de la sûreté à l'ensemble des citoyens qui vivent dans ce pays et de garantir que les personnes aujourd'hui sous OQTF puissent quitter le territoire. Mais pour ça, il faut les actionner et pas simplement les mettre de façon administrative. Et ça, c'est le débat de fond que nous avons aujourd'hui avec un ministre de l'Intérieur qui est plutôt en campagne interne pour son parti politique que d'apporter des réponses à l'ensemble des Français.
Et parlons de débat qui se cristallise aussi avec des propositions de son opposant pour prendre la tête du groupe LR.
Il y a une proposition,
mais complètement hors sol.
Au-delà d'être hors sol, parce que proposer d'envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, je rappelle que nous aimons, parce que c'est la France et que c'est une entrée sur les États-Unis et sur le Canada, que nous aimons parce que historiquement Saint-Pierre-et-Miquelon nous aime aussi et que c'est la France à part entière et que le bagne n'existe plus. On n'est plus en période de colonisation non plus, donc il faut qu'on arrête ces bêtises. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus une réflexion politique, c'est au coût médiatique. C'est-à-dire que plus on fait de bruit, plus la proposition paraît hors sol, déconnecté de la réalité, plus ça paraît logique. Et on va chercher derrière des médias qui acceptent de porter ce genre de discours, qui acceptent en plus de faire des sondages pour vérifier si l'opinion publique est d'accord avec ça. Mais avant de faire un sondage sur est-ce que l'opinion publique est d'accord avec ça, est-ce qu'on ne doit pas prendre du temps à expliquer à l'opinion publique ce qu'est une OQTF, comment ça fonctionne, ce qu'est la procédure, comment elle fonctionne, et pourquoi il y a la sensation d'avoir un échec sur le sujet. Parce que si on regarde dans les faits, la France doit délivrer environ 100 000 OQTF. Donc OQTF, obligation de quitter le territoire français par an. En Allemagne, on doit en donner 30 000. En Espagne, on est à 42 000. En Belgique, on est à 25 000. Ça, c'est des chiffres que vous pouvez trouver sur Eurostat. Donc c'est des chiffres européens renvoyés par les agences nationales. Donc je crois que les États n'ont pas vocation à tricher et à mentir sur ce sujet-là. Et après, on regarde le nombre de personnes qui ont réellement été expulsées. Alors, on va me dire que les Allemands, ils sont à 50%. Les Espagnols sont à 46%. Et les Français, on est à peine à 20%. Mais quand on fait le calcul, 23 ou 26% de 100 000 personnes sous OQTF, ça fait 26 000 personnes. Les Allemands, quand on dit qu'ils sont 45 000 et qu'ils font la moitié, on est inférieur, on est à 22 500. Pareil pour les Espagnols. Globalement, tous les pays européens expulsent le même nombre de personnes qui doivent quitter leur territoire. Il n'y a qu'en France où on met des OQTF de façon simplifiée. Ça veut dire que vous déposez une demande d'asile ou une demande de titre de séjour. Ce titre de séjour, cette demande d'asile n'est pas validée, on vous met automatiquement, une mesure administrative qui s'appelle l'obligation de quitter le territoire français. Mais vous n'êtes pas pour autant dangereux, c'est juste que vous n'avez pas de papier, donc vous ne pouvez pas rester là. Et donc c'est pour ça qu'on en donne autant par année. Nous, on demande à revoir ce système-là, à ce qu'elle ne soit pas automatisée, mais de la mettre en place pour toutes les personnes qui doivent quitter le territoire national pour des raisons de sécurité, pour des raisons de troubles à l'ordre public, parce que certaines personnes n'ont pas vocation à obtenir un titre de séjour parce qu'ils l'ont déjà eu en Allemagne, en Italie ou ailleurs, il n'y a pas de QTF à leur donner. Ils doivent retourner dans le pays dans lequel ils ont demandé les papiers et puis ils peuvent revenir sur le territoire national parce que le titre de séjour leur permet de pouvoir se déplacer. Mais le débat de fond, c'est aujourd'hui le rapport que nous avons à l'immigration, qui est un débat qui a été biaisé.
Si je me permets, puis on oublie aussi que sur les personnes sous OQTF, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des familles.
Il y a de tout. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des familles où on a la mère, le papa, les trois enfants qui sont sous OQTF. Alors même si les enfants ne l'ont pas directement, parce qu'ils sont sous la responsabilité des adultes, c'est le cas. Donc des fois, on a des familles complètes. On a parfois des familles qui ont eu des papiers pendant longtemps, et parce qu'il y a eu un problème lors du renouvellement de séjour, parce qu'il manque un papier ou qu'il manque quelque chose, ou que le dossier était trop long, on leur a mis une OQTF. Et derrière, elle est annulée, et on retrouve son titre de séjour. Et nous le savons parce qu'ici, malheureusement, chaque jour, on reçoit des demandes d'accompagnement de personnes qui sont en difficulté par rapport aux mesures mises en place au niveau des préfectures. Mais nous avons besoin, aujourd'hui, quand j'ai échangé lundi, parce qu'après la visite du ministre de l'économie, on a échangé avec des chefs d'entreprise locaux au niveau de la métropole de Metz, certains m'ont dit aujourd'hui que 70% de mon personnel est d'origine étrangère ou étranger. On était sur un site avec le ministre où on avait 80 nationalités. Et l'immigration, ce n'est pas quelque chose de négatif. Je suis moi-même issu de l'immigration. On est nombreux à être issus de l'immigration. Après, on doit faire respecter la loi, on doit faire respecter le cadre qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir s'épanouir. Et quand on ne respecte plus ce cadre et qu'on ne respecte pas la loi, on en assume les conséquences. Mais quelqu'un qui n'a pas su renouveler son titre de séjour, attend dans les 2 mois et compagnie, qui n'a pas eu son récépissé et qui perd d'ailleurs souvent son logement et son travail, lui mettre une OQTF, c'est peut-être pas la meilleure chose que nous avons à faire. C'est un débat de fond que nous devons avoir aujourd'hui. Traitons les sujets dangereux et accompagnons les personnes qui méritent d'être dans notre pays parce qu'ils s'investissent, ils payent pour certains des impôts, ils travaillent, ils ont leurs enfants qui sont scolarisés. Arrêtons de faire la chasse à tous les immigrés.
Les cas Retailleau-Wauquiez, je glisse un petit peu sur la critique de l'état de droit et la séparation des pouvoirs avec les verdicts pour les affaires Sarkozy et Le Pen. C'est dangereux pour la démocratie.
J'ai un profond respect pour la justice. Ce n'est pas un contre-pouvoir, comme on peut le dire. C'est un pouvoir qui est le pouvoir judiciaire, comme il existe le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est le président de la République. Le pouvoir législatif, ce sont les parlementaires. Et le pouvoir judiciaire qui applique les lois votées par le législateur, ce sont les juges. Et à partir du moment où on est dans un état de droit et qu'on peut être condamné en première instance, puis on peut faire appel. Et si l'appel ne nous convient pas, on peut aller en cassation. Et si la cassation ne nous convient pas, on peut toujours chercher des formules complémentaires. Je pense qu'on doit arrêter de dire qu'on a une justice politique ou une justice à deux vitesses. En plus, quand on parle de Nicolas Sarkozy ou de Marine Le Pen, ce sont les premiers à expliquer que la justice est laxiste, que la justice ne fait pas son travail. Mais quand on est condamné, parce qu'on parle que simplement de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Je rappelle qu'aujourd'hui, presque toutes les décisions de justice sont exécution provisoire. On n'est pas choqué quand quelqu'un qui a violé une enfant est en exécution provisoire et se retrouve le lendemain mis en prison, aux arrêts et enfermé à double tour. On n'est pas jugé quand un chef d'entreprise qui a détourné de l'argent ou n'a pas payé ses impôts, à son exécution provisoire et pour la même raison, on va chercher l'argent là où on doit aller le chercher et potentiellement il se retrouve en prison. Pourquoi on serait choqué pour Marine Le Pen ? Depuis quand on doit prendre une décision de justice selon les sondages d'opinion ? On s'en fout qu'elle soit la première dans les sondages d'opinion. Il a été démontré, après 10 ans d'enquête et des procédures repoussées à plusieurs reprises à la demande de Madame Le Pen, qu'elle et 24 personnes ont détourné de l'argent. Ont détourné plus de 4 millions d'euros. On parle des 5 ans d'inéligibilité, mais la réalité, c'est qu'elle a pris 4 ans de prison. 2 ans avec sursis, 2 ans sous bracelet. Elle-même qui dit que toutes les personnes qui sont condamnées par la justice doivent aller en prison dès le premier jour et on doit arrêter les bracelets électroniques. Là, en plus, elle est plus ou moins protégée. La question qu'on doit se poser, et c'est pour ça que l'exécution provisoire a été mise en place, et je le rappelle sur ce fondement-là, il y a un risque de trouble à l'ordre public. Accepterions-nous qu'une candidate à la présidentielle puisse faire campagne avec un bracelet électronique? Je crois que pour la majorité d'entre nous, c'est non. Et d'ailleurs, les sondages, vu qu'ils s'en servent en permanence, démontrent que les Français sont plutôt d'accord avec la décision qui a été prise. Donc maintenant, on doit arrêter ça. Et concernant Nicolas Sarkozy, cette vieille affaire qui traîne aussi depuis des années, ce n'est pas sa première condamnation. Et à partir du moment où le procureur de la République, qui représente quand même le ministère public, donc ça veut dire l'ensemble des Français, dit qu'il a triché, bien plus que triché, et qu'en plus de ça, il s'est servi de sa position de président de la République pour intervenir dans un pays extérieur qui était la Libye et faire en sorte qu'on mette à l'arrêt un dictateur, certes, mais qui a financé par des valises sa propre campagne et qu'il y a une demande de réquisition de 7 ans d'emprisonnement, c'est qu'on est sur un fait très grave. Et je rappelle que cette personne est déjà sous bracelet électronique. Donc ça démontre bien qu'à partir du moment où on est soit haut dans les sondages ou on a été président de la République, on demande un traitement de faveur de la justice. Non, la justice est la même pour tous. Que l'on soit simple citoyen sans engagement politique, quelqu'un d'engagé en politique comme un militant, un parlementaire ou un ancien président de la République. Vous trichez, vous payez. Vous volez, vous payez. L'arrêté est là. Et je ne comprends pas pourquoi on a dans ce pays un débat sur la remise en question de la liberté d'expression ou de l'état de droit. L'état de droit, justement, est garanti par tout ça. Et qu'aujourd'hui, si Mme Le Pen n'est pas d'accord avec ça, elle a suffisamment de recours possibles pour démontrer qu'elle est innocente. Et j'en suis pas certain qu'aujourd'hui, elle pourra démontrer qu'elle est innocente. D'ailleurs, elle n'arrête pas de dire, avec M. Bardella, que c'est un problème administratif. Mais si c'est un problème administratif, il n'y aurait pas eu de dépôt de plainte de la part de l'Union européenne, et il n'y aurait pas eu condamnation par des juges. On parle de 10 ans de procédure. Ils ont pu démontrer qu'ils ont fait des faux agendas. Ils ont même reconnu, parfois. Est-ce qu'on a envie d'accepter que le majordome de M. Jean-Marie Le Pen, pour qui nous savons qu'il était là pour le conduire là où il avait besoin d'aller ou de porter son parapluie quand il pleuvait dans les manifestations, soit payé 5000 euros par mois avec notre argent? La réponse est non. Ce n'est pas ce qui est prévu. Et moi, mes collaborateurs ne sont pas là pour porter mon parapluie ou me conduire je ne sais où. Ils sont là pour m'accompagner dans mon travail. Et on justifie le travail qu'ils font par nos dépôts de loi, par un ensemble de sujets. Et quand vous venez à mon bureau, vous les voyez, vous savez qu'on travaille. Eux, on ne les voyait pas. Et certains, comme M. Odoul, aujourd'hui député, condamné par la justice aussi, a demandé à rencontrer son parlementaire parce qu'il ne l'avait jamais vu. Ça en dit long, quand même.
Ouais, mais parler de dictature des juges sur les bancs de l'Assemblée nationale, c'est quand même grave.
C'est une honte, mais on est protégé par la Constitution, donc dans l'hémicycle, on peut dire un peu ce qu'on veut, malheureusement. Mais oui, mais ça démontre bien que l'extrême droite est l'extrême droite, et qu'elle n'a pas changé, malgré ce qu'elle nous a fait croire pendant des années. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça permet aussi, non pas de rebattre les cartes d'un point de vue politique, mais de démontrer la réalité de ce qu'est le Rassemblement National, un parti d'extrême droite qui a parlé d'une purge du système judiciaire, qui veut interdire aux juges de se syndiquer. Mais tous les juges sont syndiqués parce que ça permet d'apporter des réponses et comme tous les agents de police sont syndiqués. C'est bizarre, ça ne les dérange pas que les agents de police soient syndiqués.
Ah, mais c'est pour mieux détourner du fond.
Et ça, je vous laisse à vos propos, mais l'arrêté, c'est qu'aujourd'hui, elle a été condamnée pour détournement de fonds faux en écriture publique.
Et que plusieurs condamnés ne font pas appel, apparemment.
Non, parce que certaines personnes savent très bien qu'en plus, en appel, elles peuvent risquer beaucoup plus grave. Et que les juges ne vont peut-être pas la libérer ou dire qu'elle a été innocente. Ils peuvent aggraver la situation. Et au-delà des 5 ans qui ont été demandés en première instance, ça peut être 10, 15 ans d'inéligibilité en appel. Et ça peut être aussi une peine de prison qui peut être aggravée et sans passer par le bracelet électronique. Il faut prendre en considération qu'aujourd'hui, un juge, quand il prend une décision, il le prend sur le fondement du droit que nous écrivons, nous, législateurs, d'une part, et deuxièmement, il le prend sur les faits qualifiés. Là, les faits sont qualifiés et démontrés. On parle quand même d'un dossier qui a été motivé en 150 pages. La motivation des juges, et pas simplement de la juge, parce qu'ils étaient 3 juges, démontre à quel point c'est un système organisé pour détourner de l'argent de nos impôts. Et cette personne-là parlait d'inéligibilité à vie et parlait d'une peine de prison, même quand on vole une banane, même si on donne en prison pendant 7 jours. Qu'elle fasse ses 4 ans de prison, qu'elle fasse ses 5 ans d'inéligibilité.
Repartons sur le plan international avec la séquence de gesticulations sur les taxes douanières de Trump. Un coup, j'avance, j'augmente, je baisse, j'augmente, j'annule. C'est une chance pour l'Europe.
Alors, nous, depuis un moment, on dit que c'est une chance et qu'on parle... Je crois qu'on était quand même un des premiers partis politiques, au-delà du Rassemblement National, à parler de souveraineté nationale et européenne. Et quand on parle de souveraineté européenne, c'est parce qu'on a besoin de marcher, de fonctionner tous ensemble. La preuve, c'est que je crois que si on y va tous ensemble, les 27 pays, on est beaucoup plus fort que les États-Unis ou que la Chine. Mais pour ça, il faut qu'on accepte de recréer des industries, de redévelopper le territoire. Et donc oui, c'est pas toujours très simple, ça prend parfois du temps, mais nous, on était prêts. Et nous, depuis 2017, même sur le système, par exemple, de la défense, nous étions prêts à nous battre parce qu'on savait qu'il y avait un risque de danger venant des États-Unis. Trump l'avait déjà fait entendre. Et on avait bien vu aussi que les Américains, le peuple américain, se refermer un peu sur lui-même parce qu'il en avait un peu marre d'envoyer ses enfants à la guerre partout. Et ça, on doit l'entendre. Le seul pays d'Europe qui s'est préparé, c'est la France. La loi de programmation militaire que nous avons depuis 2017 prévoit une augmentation du budget de la défense par rapport au PIB. On l'a doublé. Là, on doit aller encore un peu plus loin parce qu'il y a un vrai risque potentiel. Depuis, il y a eu les agressions de l'Ukraine par la Russie. Et sur d'autres territoires, ça devient aussi compliqué. Donc la réalité, c'est que nous étions prêts, nous n'étions juste pas écoutés. Parce que personne ne voyait ce qui allait arriver. Alors on nous a pris pour des fous au départ, et je crois qu'en fait la réalité est en train de démontrer que nous avions raison. Mais oui, c'est une chance pour l'Europe, c'est une chance pour la France. Et quand on parle simplement de défense et d'armée, le premier pays d'Europe en termes de défense, c'est la France. Le premier pays d'Europe au jeu en termes d'industrie de défense, c'est la France. Et je rappelle que derrière les États-Unis, on est deuxième au monde. Donc on sait faire, on sait avancer et on est capable de pouvoir nous remettre en question. Alors c'est sûr que c'est compliqué aujourd'hui pour certains industriels, pour certains agriculteurs, de se dire qu'il va y avoir des taxes supplémentaires pour les exportations vers les États-Unis. C'est un marché important, colossal, parce qu'il y a aussi un pouvoir d'achat important au niveau des États-Unis. Mais on peut apporter des réponses complémentaires et redynamiser nos territoires, redonner du pouvoir d'achat sur nos territoires européens, permettra aussi d'avoir un marché qui soit différent que celui que nous connaissons aujourd'hui. Ça nous permet de préparer l'avenir différemment.
D'autant qu'on ne sait pas aux États-Unis combien de temps ça peut tenir, puisqu'on commence à y avoir des tensions en interne.
On verra ce que ça donne, mais je crois que dans toute logique, je ne sais même pas si on peut parler de logique dans les décisions qui sont prises aujourd'hui au niveau des Américains, il y a des choses qui sont en train de faire peur au peuple américain, et quand on sait que leur système de retraite ou leur système social repose sur des fonds de pension qui sont eux-mêmes en bourse et que la bourse est en train de s'effondrer, oui, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude aussi d'une crise économique mondiale à cause des États-Unis, parce que quand normalement, j'allais dire, le marché d'actions baisse, les obligations montent, là, c'est ni l'un ni l'autre. Donc tout le monde commence à avoir un peu peur et c'est pour ça qu'on doit apporter des réponses rapidement au niveau de l'Union européenne, ce qu'elle est en train de faire. Il ne fallait pas non plus répondre trop vite, répondre de façon décalée, mais d'aller taper là où on savait que ça pouvait faire mal sur le marché américain. Et quand on voit le nombre de personnes privées et d'entreprises qui veulent investir sur le territoire national et le territoire européen, on se dit qu'on est peut-être en bonne voie pour redynamiser nos territoires.
Pour autant, est-ce que les 27 pourront avancer de la même manière quand on voit que Mélanie y va toute seule et que Orban, lui, gesticule aussi dans son coin ?
Je pense que Il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, il y a des choix qui sont faits. L'Italie a un intérêt autre que le reste de l'Union européenne, mais malgré tout, elle n'y va pas toute seule. Et d'ailleurs, ça va être compliqué d'y aller tout seul en tant qu'Italien, parce que même si l'industrie italienne s'est relevée et qu'il y a un marché important avec les États-Unis et autres, ils ne peuvent pas avancer. Concernant Orban, il est dans la gesticulation et avec les Américains et avec les Russes. La problématique aujourd'hui, ce n'est pas la Hongrie, c'est le président Orban. Donc il faudra trouver des solutions. Pour l'instant, il ne bloque pas les décisions au niveau de l'Union européenne, donc on devra avancer tous ensemble. Mais la réalité, c'est qu'on se retrouve avec des personnes qui se disent nationalistes, qui se disent vouloir défendre leur pays, et sont en train de se soumettre à une dictature économique imposée par Trump, et à un dictateur qui aujourd'hui attaque l'Union européenne de front, qui est Vladimir Poutine.
J'avais un autre sujet plus français. François Bayrou a commencé à travailler sur le budget 2026. En tout cas, ça a montré qu'il souhaitait commencer à travailler beaucoup plus tôt qu'on l'aurait imaginé au vu du calendrier habituel. Pour autant, les maires ont refusé d'y participer.
C'est un débat qui est compliqué. On doit prendre... Tout le monde doit prendre sa part. Et aujourd'hui, je pense que c'est une période qui est un peu complexe, où on doit repenser notre système. On a su faire de belles choses depuis 2017, mais on n'a pas su tout faire correctement. Il y a plein de choses qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins fonctionné. Il y a des choses qui sont encore perfectibles, mais on est dans une crise économique mondiale, parce que malgré tout, on est dans une crise économique, et on a des besoins en défense, on a des besoins en développement social, on a des besoins en développement industriel et économique. Donc il faut qu'on fasse un choix sur la manière dont on dépense notre argent. On a besoin d'économiser 40 milliards d'euros sur le prochain budget. Je rappelle que le budget, en général, on commence toujours vers la période du mois de mai-juin, donc là, on est un peu en avance par rapport à ce qui est prévu d'habitude. Et je ne comprends pas que les élus locaux refusent d'y participer, même si on leur a demandé un effort à hauteur de 3 milliards sur le dernier mandat. Malheureusement, on a encore besoin de faire un effort complémentaire. Et on a pu démontrer qu'ils avaient encore de l'argent et des capacités de financement. Et puis, il faut regarder dans le détail, aujourd'hui, la manière dont cet argent est dépensé. Je ne mets pas la pression sur les élus locaux, parce qu'on est tous responsables, mais parfois, il y a des choix qui sont faits qui peuvent être discutables, et la manière dont ces choix sont faits. Après, oui, il y a toujours de l'argent à les récupérer dans les niches fiscales, les niches sociales, mais ça ne suffira pas. Et la plus grande des dépenses aujourd'hui, c'est la dépense sociale. Et est-ce que cette dépense sociale est bonne ou pas? Est-ce que notre système de réflexion est le bon ou pas? Ça pose question. Et tant que les salaires n'augmenteront pas, parce que toute la dépense sociale repose sur les salaires, alors on n'avancera pas. Les élus refusent de se mettre autour de la table. On a des personnes qui sont à la retraite aujourd'hui qui refusent qu'on puisse toucher aussi aux pensions de retraite. Ce que j'entends, mais c'est un effort collectif que l'on doit faire. Tout ne peut pas reposer sur les travailleurs. Et malheureusement, aujourd'hui, 80% des dépenses reposent sur le financement fait par les travailleurs. Donc on doit repenser tout ce système-là. Et si on refuse de se mettre autour de la table, alors on en assumera aussi les décisions qui seront prises. Et je pense que les élus ont une part de cette réflexion à apporter. Les élus locaux, qu'ils soient ruraux ou dans des grandes villes. Mais parfois, la campagne politique est supérieure au reste.
Parlons justement de dépenses sociales. Le président du département a tapé du poing sur la table sur les plans supplémentaires qu'on lui avait imposés sans concertation.
Alors je me rappelle de quelles dépenses tu parles. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas en parler ou critiquer. Mais il y a toujours des concertations, les élus sont toujours informés. La majorité des textes passent par l'Assemblée nationale ou par décret. Et on est toujours informés en avant. On ne prévient pas le 31 mars pour le 1er avril. Donc je pense qu'on est un peu parfois dans la mauvaise foi, parce que ça permet soit de justifier ce qu'on n'a pas été capable de faire ou de justifier ce qu'on n'a pas envie de faire. Mais je ne critique aucun responsable et je comprends l'ensemble des associations d'élus, qu'ils soient départementaux, régionaux ou municipaux. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le détail la manière dont certains dépensent l'argent, on peut se poser la question de la manière dont c'est fait. Et puis étonnamment, vous passez d'un département à l'autre, on ne vous dit pas la même chose. Donc c'est assez intéressant.
Et pourtant, ils se sont un peu unis avec les départements, notamment ceux du Grand Est.
Oui, mais après, il faut regarder pourquoi et comment, et les choix qui sont faits. Quand on ne collabore pas correctement parfois avec la région, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des dépenses complémentaires qui n'étaient pas prévues. Et après, oui, on a des besoins en termes de protection sociale de l'enfance, en termes de lutte contre les violences intrafamiliales. On a besoin de tout ça. Et sur les dépenses sociales, aujourd'hui, sur le RSA, je crois qu'on a pu apporter des réponses au niveau de l'État. Les dépenses sont compensées à l'euro près. Après, il y a des choix qui sont faits parfois par des élus, qui sont leurs choix personnels. Est-ce qu'ils font les bons choix pour être réélus ou ils font le bon choix pour l'intérêt général? C'est aux citoyens de choisir.
Très rapidement, deux dernières questions. On n'a jamais eu autant de ministres visitant la Moselle que ces derniers mois. On en a eu 8, je crois, en moins de 6 mois.
Alors, je crois que depuis 2007, il y a eu des périodes où on en a eu un peu plus. Après, ils ne sont pas tous venus pour les mêmes raisons. Ils ne sont pas tous étiquetés de la même couleur politique. Et il faut parfois se poser la question, certains sont en campagne ou sont en train d'accompagner des personnes en campagne ou s'ils sont en train de porter des vrais projets. Mais c'est très bien pour notre département, quoi qu'il arrive.
Tout à fait, ça lui donne une visibilité.
Quoi qu'il arrive.
Et ultime question, le préfet de la Moselle part.
Il va vraiment nous manquer. C'était, même s'il n'est pas d'ici, c'était devenu un Mosellan à part entière. Et il a toujours œuvré dans l'intérêt général, malgré les attaques qu'il a pu subir à droite et à gauche. Moi, c'est une personne avec qui j'ai bien travaillé, beaucoup travaillé pendant 5 ans, qui a été toujours à l'écoute, disponible, et qui, je crois, va énormément nous manquer. Alors, je ne dis pas ça pour son successeur, parce qu'on ne sait pas encore qui va arriver. Il part d'ici une dizaine de jours pour le Pas-de-Calais, et je lui souhaite de prendre autant de plaisir dans le Pas-de-Calais qu'il en a pris en Moselle.
Vous parliez des attaques qu'il a pu subir, c'est notamment sur le dossier des gens du voyage, où beaucoup de maires jugent qu'il n'a pas fait son travail, en tout cas pas suffisamment traité ce dossier-là.
En tout cas, il y a eu très peu de demandes au tribunal administratif. Et tout ne passe pas par le préfet. Et je crois que le préfet a rédigé quelques courriers à certains maires pour leur rappeler qu'ils devaient aussi respecter la loi, qui est la loi Besson de 2000. Et de l'autre côté, on est en train de préparer donc un projet de loi, parce que la niche aux raisons s'est arrêtée plus tôt que prévu. Et on va remettre les choses aussi de notre côté. Mais il faut arrêter de s'attaquer. Je crois qu'il faut savoir travailler, et travailler ensemble, et pas les uns contre les autres.
Sur ces paroles pleines de philosophie, au mois prochain, monsieur le
député. Au mois prochain, merci et bonne journée.